France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Dulcie September, représentante de l'ANC, assassinée le 29 mars 1988 à Paris. L'épisode est inédit. C'est la première fois qu'une militante noire sud-africaine est tuée en Europe. Un drame qui longtemps laissera des traces et qui établit deux constats. Un, le choc de cet assassinat en plein cœur de Paris, qui a poussé des milliers de Français à manifester afin de rendre hommage à cette combattante. 2. Une affaire d'État au pluriel dans laquelle on croise des services secrets français et sud-africains, des mercenaires, des marchands d'armes, des hommes politiques et des journalistes tenaces. Si aujourd'hui le régime de l'apartheid dans l'Afrique du Sud n'est revendiqué par aucune force politique française, ce n'était pas tout à fait le cas avant sa chute en 1990. Dans différents domaines comme celui des armes, la coopération entre Paris et Pretoria s'est même intensifiée. Un choix critiqué par de nombreux militants, dont Dulcie September, qui tout au long de sa présence en France n'a cessé d'alerter l'opinion sur ses compromissions. Alors, faut-il y voir un lien avec l'assassinat ? Beaucoup d'éléments penchent vers cette hypothèse. Mais l'enquête se soldera par un non-lieu en juillet 92, laissant ce drame sans réponse. Notre invité aujourd'hui, le journaliste Benoît Colomba, de France Inter, auteur d'une enquête sur cette affaire en bande dessinée avec Grégory Mardon, album intitulé Dulcie du Cap à Paris, enquête sur l'assassinat d'une militante anti-apartheid aux éditions Futuropolis. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Jean Bulot, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denantes, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Mardi 29 mars 1988.
Et c'est Thierry Bourgeon qui vous présente le journal.
Bonjour.
Ce matin-là, à Arcueil, au 7 rue de la Convention, une femme se prépare. Elle enfile un chemisier marron, pioche deux boucles d'oreilles dépareillées, place ses cheveux en chignon. Son visage porte les traits d'une vie contrainte, loin de son pays, l'Afrique du Sud. Sa couleur de peau et son engagement contre l'apartheid ont fait d'elle une exilée réfugiée dans notre pays. Son nom, Dulcie September. Depuis des années, cette femme de 52 ans se bat au sein de l'ANC pour alerter l'opinion sur le sort de ses compatriotes, mais aussi sur les compromissions de certaines puissances étrangères avec ce pouvoir autoritaire et raciste de Pretoria. Les bureaux de l'organisation de Nelson Mandela se trouvent au 28 rue des Petites Écuries, dans le 10e arrondissement de Paris. Bâtiment C, 4e étage, porte gauche. Pour pénétrer dans cet immeuble, un code, 5, 3, 2, 1, désactivé en journée. La copropriété abrite plusieurs bâtiments où se trouvent des appartements, mais aussi des locaux d'entreprise et d'associations. Ce 29 mars, vers 9h, Stéphane A., un employé d'un magazine consacré au sport, arrive sans les clés de son bureau, situé en face de ceux de l'ANC. Alors il patiente, seul devant la porte. Durant cette attente, il croise un homme inconnu et entend des bruits d'aller-retour dans les escaliers aux étages supérieurs. Depuis plusieurs semaines, des travaux ont lieu dans la copropriété. Des échafaudages suspendus ont été installés au 6e et 7e étage. Des peintres en charge du ravalement y travaillent, donc rien d'inquiétant. Vers 9h20, une collègue arrive et lui ouvre. Quelques minutes plus tard, Dulcie September passe la porte cochère. Comme à l'accoutumée, elle s'arrête d'abord chez la concierge pour prendre son courrier. Si l'adresse de l'organisation est connue, des militants, sur place il n'y a ni boîte aux lettres ni plaque au nom de l'ANC. Bien, elle discute un peu, puis rejoint le 4e étage. Quelques instants plus tard, un employé d'une société commerciale de publicité pénètre dans le bâtiment C. Et là, il croise deux hommes pressés qui dévalent les escaliers. Peau claire, trapu, la quarantaine. Et vers 10h, le corps de Dulcie September, étendu sur le palier, est découvert. Le visage est maculé de sang. À côté d'elle, 5 douilles, calibre 22. Les secours sont alertés, les policiers suivent, les journalistes ferment la marche. Sur place, ils collectent le témoignage d'un voisin.
Un corps, des douilles à côté, les journaux par terre, parce qu'elle cherchait à ouvrir la porte, il y a la clé sur la porte.
Vous la connaissiez cette dame ?
Non, je la croisais dans l'escalier.
Dulcie September a été assassinée de 5 balles dans la tête. Les inspecteurs de la brigade criminelle notent qu'aucune détonation n'a été entendue. Non, juste un bruit sourd, comme une chute, vers 9h45. L'arme utilisée devait être munie d'un silencieux. Aux étages supérieurs, on trouve deux mégots de cigarettes de marque Marlboro. Le bureau d'ANC n'a pas été visité. Les clés de Dulcie September étaient encore engagées dans la serrure à l'arrivée des secours. Et aucun document ne semble manquer. C'est bien la voix de cette militante qu'on a voulu faire taire. Face aux policiers ainsi qu'à la presse, les proches de Dulcie accusent les autorités françaises d'abandon. Selon eux, leur ami se savait menacé et avait demandé une protection au ministère, comme l'explique le secrétaire et trésorier de l'ANC.
Des menaces de mort dans les 8 derniers mois. Et je sais aussi qu'elle était suivie régulièrement. C'est ce qu'elle a dit et c'est ce qu'elle avait dit aux autorités lorsqu'elle avait fait ses renouvellements de carte de séjour.
Est-ce qu'elle avait demandé une protection particulière au ministère de l'Intérieur ?
Ah ben, quand on signale qu'on est suivi et quand on sait le danger qui menace les militants de l'ANC, je crois que c'est une demande de protection, ça c'est clair.
Au printemps 88, voilà 40 ans que les suprémacistes blancs ont pris le pouvoir en Afrique du Sud et mis en place le régime de l'apartheid. Année après année, les Noirs et les Métis sont fichés, déplacés et parqués dans des ghettos. Chacun d'entre eux est muni d'un pass de circulation qui limite tout déplacement. La nuit leur est interdite, comme l'accès aux plages, au cinéma, au restaurant, au bus et au train. L'école également est marquée du sceau de la ségrégation. L'éducation d'un élève noir coûte 14 fois moins cher que celle d'un élève blanc. Il n'y a pour lui aucun enseignement des sciences, du sport, de la musique ou du dessin. Dulcie September est l'héritière de toute cette histoire. Adolescente, contrainte, elle quitte l'école et intègre les ateliers d'une fabrique de lingerie. Le soir, elle suit des cours. Devenue institutrice, elle s'engage dans la lutte, répond aux appels de manifestations, participe à l'action clandestine. Militer est alors une chose interdite et dangereuse. Et la répression est rude, féroce. En 1960, lors d'une manifestation pacifique à Charleville, plusieurs dizaines de personnes meurent sous les balles des policiers. 3 ans plus tard, en octobre 63, Dulcie est arrêtée, inculpée pour conspiration en vue de commettre des actes de sabotage et d'incitation à des actes de violence politique. Elle est condamnée à 5 ans de prison, elle a 29 ans. À sa sortie, elle intègre le cortège des bannis d'Afrique du Sud, comme cette femme, interrogée dans l'émission 7 jours du Monde de l'ERTF.
Je suis bannie. Cela signifie que je n'ai plus aucun droit à la vie publique. Je suis professeur, mais les universités comme les écoles me sont interdites. Je ne peux même pas y accompagner mes enfants. Je ne dois participer à aucune réunion politique ou syndicale. Je ne peux parler à plus d'une personne à la fois. Et il est interdit de reproduire mes paroles. Je n'ai pas le droit de me défendre ni de faire appel. D'ailleurs, je n'ai pas été jugée. Tout cela parce que je me suis attachée depuis 1960 à lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses formes.
Assignée à résidence du 6 septembre, elle subit les pressions quotidiennes des autorités. Alors, en 1973, elle décide de prendre le chemin de l'exil. Un visa permanent en poche, elle fait le choix de la Grande-Bretagne, où de nombreux militants contre l'apartheid ont trouvé refuge. À Londres, elle fait ses classes de militante professionnelle. On l'a dit, pleine d'énergie, enthousiaste, mais aussi rigoureuse, voire austère. Elle écrit, rencontre, organise des événements. Parmi ses dossiers, l'enfance, la question des femmes en Afrique du Sud, comme au sein de l'ANC. En 84, suite à sa nomination de représentante du mouvement de Nelson Mandela en France, en Suisse et au Luxembourg, elle s'installe en région parisienne. Sans reconnaître officiellement l'ANC, le gouvernement socialiste l'autorise à bénéficier de la loi sur les associations, la fameuse loi 1901. Dulcie accepte le risque de vivre ici, sans protection. Pourtant, à cette époque, l'ombre des commandos de la mort plane sur la vie de chaque membre en exil de l'ANC. Attentats, accidents de circulation, exécutions sommaires. Des morts sans explication, sans coupable, sans jugement. Dulcie le sait, mais poursuit la lutte. Dès qu'on l'invite, elle prend le train et la voiture pour dire ce qu'est la vie en Afrique du Sud sous l'apartheid. En décembre 1985, c'est sur le plateau du JT de France 3, Le Mans, qu'elle vient témoigner de son combat.
Ce que ça signifie de vivre dans un pays comme l'Afrique du Sud, ce que ça signifie de vivre en état d'urgence, là où la police et l'armée ont les pleins pouvoirs, avec des tueries qui n'en finissent pas. Je viens expliquer ici combien les pays occidentaux et les États-Unis apportent leur aide au gouvernement de l'Afrique du Sud. Nous devons nous battre pour renverser ce régime raciste à l'heure actuelle en Afrique du Sud et prendre le pouvoir. Nous voulons une société démocratique, non raciale.
Depuis les années 60, effectivement, les liens entre le régime de l'apartheid et les puissances occidentales étrangères sont évoqués dans la presse, mais aussi à l'ONU et lors des réunions de son Conseil de sécurité. La France y est à chaque fois citée et critiquée. Il faut dire qu'entre 1963 et 1975, notre pays est devenu le principal fournisseur d'armes du gouvernement sud-africain. Avions de chasse, hélicoptères, blindés, missiles. Et la coopération ne se limite pas seulement à l'achat d'équipements, non. Elle englobe aussi le transfert des savoirs, ainsi que le financement commun de développement d'armes. En 1977, l'ONU impose finalement un embargo strict. Et la France rentre dans le rang. Enfin, officiellement. Car en réalité, le lien entre Paris et Pretoria n'a jamais été rompu. Des rencontres ont eu lieu, des accords sont signés, des armes sont livrées, bien sûr, en toute discrétion. Des documents récemment déclassifiés en Afrique du Sud le prouvent, comme l'a démontré le chercheur Henny Van Vuren sur RFI.
Officiellement, la France condamnait le régime d'apartheid en Afrique du Sud, une position réaffirmée pendant les années de gouvernement socialiste. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucune différence, quelle que soit la tendance politique en place. Mais on a la preuve via des archives et en discutant avec plusieurs sources que tout au long des années 80, il y a eu un trafic d'armes constant et d'échanges de renseignements au plus haut niveau entre la France et l'Afrique du Sud. Ce qui est important, c'est que la France est un des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, un des cinq pays censés veiller à ce que l'embargo de l'ONU, en place entre 1977 et 1984, soit respecté. Au lieu de cela, on voit que la France, comme tous les autres membres du Conseil de sécurité, a violé cet embargo et a vendu des armes.
Entre la France et l'Afrique du Sud, il y a un autre atome crochu, le nucléaire. Non contente de permettre à l'Afrique du Sud de devenir la première puissance militaire du continent africain, la France l'accompagne dans le développement de son programme nucléaire. Tout commence par la signature en 1976 d'un contrat de construction d'une centrale de deux réacteurs à eau pressurisée d'une puissance unitaire de 1000 MW. À partir de cette date, des ingénieurs et des ouvriers français de Framatome, Alstom Atlantique et SPI Batignol se rendent au nord du Cap, à Queuberg. Évidemment, ce contrat se limite au nucléaire dit civil. À l'ONU, le représentant français l'a promis, juré. 9 mois plus tard, le ministre des Affaires étrangères, Louis de Guiringot, rappelle cette promesse.
Le contrat de Framatome avec l'Afrique du Sud, ce contrat qui prévoit la construction de deux centrales électronucléaires à Queuberg, près du Cap. Ce contrat prévoit justement que le retraitement des combustibles de ces centrales aura lieu en France et que le plutonium ne sera pas renvoyé en Afrique du Sud. Il est donc contraire à la vérité et parfaitement malhonnête de dire que ces centrales pourraient aider l'Afrique du Sud à acquérir l'arme atomique qu'il se trouve malheureusement, même des Français pour l'affirmer, ils mentent et ils se conduisent, j'espère inconsciemment, en agents de l'étranger et en ennemis de notre pays.
Entendu, monsieur le ministre. Sauf que quelques mois plus tard, Pretoria informe la communauté internationale de son choix de construire sa propre usine d'enrichissement d'uranium. À quoi cela peut-il servir ? Eh bien, c'est l'élément indispensable pour développer le volet militaire de son programme nucléaire et ainsi imaginer l'élaboration d'une arme atomique. Dans les services de renseignement, comme au sein des chancelleries, à plusieurs reprises, des notes évoquent la détection par satellite d'éclairs lumineux. Des essais nucléaires ? Peut-être. Réel ou non, le fait que cela soit possible représente déjà une menace. Et bien malgré cela, le contrat de Quebec entre la France et l'Afrique du Sud est maintenu. Et en 1985, la centrale est livrée. La même année, le 15 novembre, Dulcie September rédige une note à l'attention de l'ANC.
Il est évident que les téléphones, que ce soit dans mon appartement ou au bureau, sont sur écoute. Le 6 novembre, lorsque je suis arrivée, les lumières étaient allumées et la porte de mon bureau ouverte. Le lendemain, mon assistante a trouvé la porte de mon bureau grande ouverte, alors que nous l'avions fermée à clé avant de partir. Un jour, j'ai décroché le combiné de mon téléphone pour passer un appel. J'ai entendu des voix au bout du fil. J'ai continué à tendre l'oreille et j'ai entendu un téléphone sonner. Une femme a répondu en disant « Thomson et compagnie, j'écoute ».
En 1986, Dulcie September est agressée dans le métro. La même année, le président sud-africain Peter Botha est de passage en France. Il n'est reçu par aucun ministre, ce qui ne signifie pas une rupture de dialogue entre les deux pays. La preuve, les lettres de créance de l'ambassadeur n'ont jamais été refusées par nos présidents. Sauf une fois, le 24 juin 1987. Par ce geste diplomatique, François Mitterrand souhaitait protester contre l'emprisonnement d'un coopérant français, Pierre-André Albertini, condamné à 4 ans de prison pour avoir refusé de témoigner contre des militants anti-apartheid de l'ANC. Après plusieurs mois de négociations et de campagnes de presse, le Français est libéré le 7 septembre 1987. Lors de son retour chez lui, à Évreux, il invite, entre autres, Dulcie September. Et elle profite de l'événement pour évoquer une espérance, avec prudence.
J'espère, mais je ne pense pas, parce que l'apartheid est un système violent, et les pays occidentaux soutiennent la violence en Afrique du Sud, parce qu'ils vendent des armes énormément à le régime d'apartheid.
La libération du Français Albertini, emprisonné en Afrique du Sud, a été possible grâce à l'action d'un certain Jean-Yves Olivier. Ce Français d'Afrique a fait fortune dans la vente de matières premières au sens large. L'homme est riche, puissant, influent sur le continent africain et à Paris. Dans son carnet d'adresse, à la lettre R, on trouve le nom de Roussin, prénom Michel. Ancien directeur de cabinet du patron du STEC, l'ancêtre de la DGSE, Roussin devient en 86 directeur de cabinet à Matignon. Aux côtés de Jacques Chirac, alors premier ministre de la cohabitation, il travaille avec d'autres grands noms de nos services secrets ou de la diplomatie parallèle. Jacques Foccart, qui officieusement pilote les affaires africaines, mais aussi Charles Pasqua, ancien du service d'action civique devenu ministre de l'Intérieur. Citons également Jean Taousson, chargé de mission Place Beauvau sur les questions des rapatriés et des harkis. Un homme au CV long comme le bras, pied noir, ancien de l'OS, il a été un journaliste baroudeur hautement renseigné. Si bien qu'à chaque conflit en Afrique, où les services secrets français tentent de jouer de leur influence, Taousson est là. Congo, Biafra, Yémen. Durant les années 80, il dirige le journal Le Courrier Austral parlementaire, considéré comme l'organe du lobby pro-apartheid en France. Taousson est une sorte de mercenaire de l'information et de la contre-information. Un drôle de type, d'une drôle de vie en somme. À l'époque, cette proximité entre la droite française et le régime de l'apartheid n'étonne personne. Comme le rappelle le journaliste Roger Faligot dans un documentaire de François Gauduchot intitulé Qui se souvient de Dulcie September ?
Il y a pas mal de cas dans lesquels, sans doute, certains fonctionnaires ont fait du zèle par rapport à la collaboration avec les services étrangers. Des services de renseignement acceptent ou ont l'habitude de travailler avec des services extérieurs, qui leur disent quoi? Ils leur disent, écoutez, il y a des dissidents qui sont chez vous, etc. On a peur qu'ils montent des attentats chez nous. Est-ce que vous voulez bien les surveiller? Donnez-nous les informations les concernant. Que font-ils, etc. Donc il y a une habitude à ce moment-là. Il est bien évident que le service demandeur, en l'occurrence africain du Sud, ne dit pas aux Français, je vous demande ces informations pour exécuter cette dame, pour l'assassiner. Il est bien évident que c'est au contraire, pour prévenir tout acte de violence, etc. Et c'est la façon dont des services se retrouvent parfois, ou des gens individuellement, parce qu'ils ont une relation, je dirais même amicale, quelquefois, entre collègues qui se retrouvent dans des colloques internationaux de police et autres. Il y a comme ça des gens qui parfois se retrouvent dans des situations très délicates, où ils ont donné l'information qui ont permis à un service étranger. Et on a cet exemple-là, alors là, peut-être 10-15 fois en 20 ans, avec les services israéliens, par exemple, en France.
Le 7 avril 88, quelques jours après l'assassinat de Dulcie September, l'événement du jeudi révèle que Jean Toisson aurait rédigé plusieurs notes pour les services sud-africains. Faut-il y voir un lien avec l'assassinat de la militante de l'ANC? Le chargé de mission a toujours démenti. Il ne sera jamais entendu par la juge d'instruction et donc jamais inquiété. La piste en reste là, comme d'autres d'ailleurs. Et ce qui pouvait arriver arrive. Au bout de 4 ans, une ordonnance de non-lieu est rendue, sans que l'identité des deux inconnus de l'escalier du bâtiment C ait été découverte. Étaient-ils sud-africains? Français? Jusqu'où notre pays a-t-il été complice de l'assassinat de Dulcie September? Aujourd'hui, l'assassinat de Dulcie September.
France Inter.
Le drapeau de la garde républicaine se redresse. Le président de la République passe maintenant en revue les deux compagnies du 1er régiment de la garde républicaine de Paris au son de la marche consulaire à Marengo.
Affaires sensibles.
Dans la tribune, M. Nelson Mandela auprès de M. de Charette, le ministre des Affaires étrangères.
14 juillet 1996, défilé militaire et invité d'honneur. Cette année-là, c'est donc Nelson Mandela, devenu président d'Afrique du Sud, qui est l'hôte de la France et de son président Jacques Chirac. L'apartheid est morte, l'ANC est au pouvoir, elle agit comme telle. sur la table des discussions. Les diplomates et les ministres évoquent la question des investissements français sur place, mais aussi la poursuite de coopération au sens large. Si la réelle politique domine cette visite d'État, Nelson Mandela profite de sa présence en France pour se rendre à Arcueil. Accompagné de Jacqueline de Reims, l'une des amies les plus proches de la disparue, le maire communiste Marcel Trigon l'accueille. Mandela salue la foule, dépose une fleur devant la plaque en l'honneur de la disparue, puis il prend la parole.
La meilleure façon de se souvenir de Dulcie September est de faire en sorte que les idées pour lesquelles elle a sacrifié sa vie soient mises en pratique. Ce en tâchant, dans notre propre pays, de créer suffisamment d'emplois, de construire suffisamment de maisons, d'écoles, d'hôpitaux, de terrains de jeu pour nos enfants. Nous devons pouvoir fournir à nos concitoyens, particulièrement dans des zones rurales, de l'eau propre. Nous devons pouvoir fournir tous les équipements nécessaires. C'est pour cela que Dulcie September lutte, et c'est ce sur quoi nous vous demandons de veiller.
La même année, en Afrique du Sud, les crimes de l'apartheid sont au cœur de la commission Vérité et Réconciliation. Le nom de Dulcie September résonne à plusieurs reprises. En 1996, l'ancien président Peter Willem Botha est interrogé. C'est un extrait du documentaire d'Anvers Samuel intitulé Murder in Paris.
Après le meurtre de Dulcie September, quelles mesures vous avez prises pour déterminer si l'Afrique du Sud était impliquée ou non dans cette affaire ?
In relation to that matter.
It came to us in foreign affairs as a severe shock.
Les affaires étrangères ont été très choquées parce qu'un événement de cette nature ne peut pas se produire. Que l'on aime ou non Dulcie September, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas une bonne chose. C'est mauvais pour l'Afrique du Sud, c'est tout simplement mauvais. Et ça continue. Dans un cas comme celui-ci, nous ne savions pas quoi faire. Nous n'avions pas de service d'espionnage, c'était votre affaire. Dans un cas comme celui-ci, j'appellerais peut-être l'ambassadeur de France.
En avril 1998, Eugène de Kock, ancien chef de la police secrète qui a déjà été condamné à perpétuité pour sa participation à 83 crimes, est interrogé sur l'assassinat de Dulcie September. À la barre, il affirme qu'il s'agissait d'une opération du Bureau de coopération civile de l'armée sud-africaine. Devant la commission, il explique que la mission aurait été confiée à deux hommes, deux mercenaires français proches de Bob Dylan. Ce que nous savons désormais, c'est qu'une connexion entre les Comores, la France et l'Afrique du Sud était bien active à l'époque. Dès la prise de l'archipel par Dylan en 1978, l'Afrique du Sud s'invite. Le régime de Pretoria accepte par exemple de financer la garde présidentielle en échange, entre autres, de l'installation d'une station radio sur place pour écouter les liaisons dans le canal du Mozambique. Le pouvoir comorien offre également de fausses identités à certains des espions sud-africains. Alors, est-ce que ça veut dire que des mercenaires français ont été embauchés pour des missions homicides sud-africaines ? Peut-être. Par cupidité et ou idéologie, les mercenaires changent d'uniforme, c'est comme ça, saluent d'autres drapeaux et tuent, hier comme aujourd'hui. Mais Eugène de Kock ne s'arrête pas là. Dans ses confessions, il donne même le nom de l'un des tueurs, Jean-Paul Guerrier, alias Capitaine Siam. Sorti de Saint-Cyr en 73, Guerrier, le bien nommé, fait partie de cette génération de parachutistes devenus mercenaires, luttant sur les zones de guerre aux côtés des ennemis du communisme et de l'islam. Comme d'autres, Guerrier se vend plus au franc et renseigne les différents services secrets. Après la Rhodésie en 78, il s'installe en Afrique du Sud. Là-bas, la légende dit qu'il est devenu un instructeur de l'armée sud-africaine. En 89, il rejoint Bob Dylan et sa garde présidentielle aux Comores. Alors, pouvait-il être à Paris le 29 mars 88 ? Il ne l'a jamais nié, il n'a jamais été interrogé. Alors qu'il est recherché, Guerrier disparaît. En mars 2000, il est jugé et acquitté par contumace. A-t-il trouvé refuge au Cap ou aux côtés d'anciens mercenaires d'Afrique ? Depuis cette date, personne ne sait où se trouve le capitaine Siam. Si l'enquête judiciaire sur l'assassinat de la militante de l'ANC est close, les enquêtes journalistiques, elles, ne cessent pas. Parmi elles, la néerlandaise Evelyn Groenunk. Elle en est persuadée. Il faut aller chercher du côté du commerce des armes entre la France et l'Afrique du Sud. Comme elle l'évoquait lors de ce reportage du journaliste Pascal Henry pour le magazine spécial investigation de Canal+.
Un des policiers m'a dit « Madame, si nos collègues sont impliqués, n'attendez pas de nous que nous les arrêtions. » C'est tout ce que je sais.
Mais vous pensez que les policiers avaient peur de l'implication politique de l'affaire ou qu'ils s'y intéressaient pas vraiment?
Je pense que c'est exactement ce que m'a dit le policier. Si c'est nous, on ne va pas les arrêter. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils suivent cette piste.
Aujourd'hui encore, malgré les demandes des familles et la découverte de nouveaux documents en Afrique du Sud, le dossier de Dulcie September n'a pas été rouvert en France. Plus de 35 ans après les faits, les dérogations d'accès aux archives françaises entre la France et le régime de l'apartheid sont pour la plupart refusées. Les questions essentielles, à savoir qui a tué Dulcie September, pourquoi a-t-elle été assassinée, quels risques représentait-elle pour les intérêts sud-africains et français, n'ont donc pas trouvé de réponse. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'assassinat de Dulcie September. Notre invité, Benoît Colomba. Bonjour.
Bonjour.
J'ai envie de dire, faites comme chez vous, car vous êtes chez vous. Journaliste d'investigation à France Inter et plus largement pour Radio France. Vous publiez aujourd'hui une enquête inédite sur cette affaire September, racontée en bande dessinée avec Grégory Mardon, livre intitulé « Dulcie du Cap à Paris, enquête sur l'assassinat d'une militante anti-apartheid » aux éditions Futuropolis. On va parler du fond bien sûr tout de suite, mais d'abord la BD. Il y a eu juste avant le choix du chômage. Pourquoi ce choix? Pas du chômage, hein, de la BD.
Bah, il s'est imposé pour raconter une histoire complexe, une histoire méconnue. Cette histoire, je l'ai découvert en 2010 en rencontrant Jacqueline de Reims, qui est une militante anti-apartheid, membre du Parti communiste et qui était très proche de Dulcie September. Et là, je découvre la personnalité et l'action de Dulcie September, mais je découvre aussi son invisibilisation. C'est-à-dire, tout le monde connaît Nelson Mandela, mais quasiment personne ou peu de monde connaît Dulcie September. Donc voilà, je commence à partir sur sa trace. Et en fait, pendant des années, sans savoir à ce moment-là que ça va devenir une bande dessinée, mais j'accumule des entretiens, des documents, j'enregistre, je filme. Ça devient un peu ma malle au trésor, en quelque sorte. Et puis l'idée s'impose d'en faire une bande dessinée. Donc avec Grégory Mardon, on va rencontrer les derniers témoins de cette histoire. Parce que finalement, Dulcie September, elle est victime deux fois. Elle est victime effectivement des deux individus qui la tuent devant son palier, mais elle est victime d'une amnésie collective. Donc avec ce livre, on lui rend son visage.
Alors, au moment des faits, en 1988, donc, on va se rafraîchir la mémoire, hein. Où en est l'ANC ?
Bah, l'ANC est évidemment l'acteur principal de la lutte contre l'apartheid. L'ANC a changé de stratégie, il faut peut-être le rappeler en deux mots, et passer d'une lutte pacifique à une lutte armée. Le tournant, on l'a entendu dans votre récit, c'est le massacre de Charpeville. Mars 1960, donc là c'est des manifestants devant un commissariat, la police tire sur la foule. Donc c'est un massacre, on estime à 69 morts, 200 blessés. Et là l'ANC est interdit à partir de ce moment-là. Donc l'organisation va partir en exil à Lusaka, en Zambie. On se rappelle aussi que Nelson Mandela, en 64, est condamné à la prison à vie. Donc c'est Oliver Tambo, une autre figure de l'ANC, qui va diriger le mouvement. Donc c'est la lutte armée, mais c'est aussi alerter les opinions publiques et les gouvernements pour abattre le régime de l'apartheid en faisant appliquer les sanctions économiques. Donc le boycott et l'application des résolutions des Nations Unies. Alors évidemment, il y a certaines personnes qui à l'époque expliquent que non, mais c'est pas une stratégie efficace, que finalement il faut qu'en douceur le régime se réforme. Ce à quoi l'ANC répond, non, ce ne sont pas les sanctions qui nous tuent, c'est l'apartheid. Ouais. Et on est dans le contexte de la guerre froide. Ça aussi, il faut le rappeler, c'est-à-dire bloc contre bloc. Avec vraiment l'Afrique du Sud c'est le rempart du monde occidental et donc est soutenu par beaucoup de pays occidentaux face au communisme.
Alors dans votre BD justement, Jacqueline de Reims raconte que le cheval de bataille de Dulcie, c'était de démontrer que la France ne respectait pas les sanctions contre l'Afrique du Sud votées par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Nous l'avons montré dans ce récit, comme lors d'une précédente émission d'ailleurs, hein, l'étude des archives déclassifiées, notamment sud-africaines, montre que le lien des armes entre la France et l'Afrique du Sud, malgré l'embargo, n'a jamais été rompu. Alors vous interrogez Pierre Joxe, hein, ancien ministre de l'Intérieur et de la Défense, sur ce sujet, et il vous répond « Je ne peux pas répondre parce que vous me demandez de violer un secret professionnel. Donc cette affaire, en France, est encore taboue. »
Tabou, elle n'est pas tabou pour les militants, pour les décideurs politiques et les membres du renseignement et les marchands d'armes, oui, elle est en grande partie, parce qu'évidemment, ça fait un peu tâche dans le récit officiel de la France qui aurait soutenu de manière unanime l'ANC face à l'oppresseur raciste de Pretoria. Non, l'histoire, c'est pas du tout celle-là. Il y a effectivement un soutien de la France au régime de l'apartheid qui est très documenté à partir des années 60, donc ça, c'est une chose. Sauf qu'à partir de 1977, novembre 77, il n'est plus possible vraiment d'exporter des armes et donc ce soutien, il va se prolonger de manière clandestine. On sait qu'il y avait un office d'armement qui était au dernier étage de l'ambassade d'Afrique du Sud et qui continuait à faire en sorte que les affaires continuent. Pendant l'apartheid, les affaires continuent. Et là, on est vraiment dans un domaine, l'armement, où c'est un tiers émergé, deux tiers immergés.
En fait, la France, qui fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU, l'un des cinq pays, hein, qui a un peu vocation à être le gendarme de la bonne marche du monde, se comporte comme un policier corrompu.
Oui, c'est ça. Ce sont les mots de Henny Van Vuren, qui est donc un chercheur sud-africain,
qu'on a cité,
membre d'une ONG qui s'appelle Open Secrets, et qui a eu accès à plus de 40 000 documents déclassifiés sud-africains, et qui documente ça. Documente cette relation commerciale et surtout militaire avec l'Afrique du Sud.
Est-ce que c'est l'ensemble du complexe militaro-industriel français qui a travaillé pour l'Afrique du Sud? Je dis ça parce qu'on imagine un fabricant d'armes qui se dit « mon concurrent est dans le jeu, pourquoi pas moi ?»
Oui, ça concerne de nombreuses entreprises. On a encore une fois des éléments qui permettent de le comprendre. Ça se passe au niveau des services de renseignement également, pas uniquement des entreprises. On sait par exemple que la France a proposé à l'Afrique du Sud des missiles dernier cri qui finalement ont transité par l'Angola, alors même qu'ils n'avaient pas encore été utilisés par la France. Donc c'est dire le degré de confiance qu'il y avait entre les deux pays. On peut citer aussi des notes qui font référence à des entretiens en 1986, donc au sein de cet office d'armement qui s'appelle Arms Corps, des entretiens entre Aérospatiale, qui est une entreprise publique à l'époque, et donc les agents de Pretoria. Et là, il s'agit de vendre des hélicoptères dernière génération, des Super Puma, et comme c'est interdit, on va passer par un pays tiers, en l'occurrence, ils vont être fournis en kit en passant par le Portugal. Et donc, on sait également par ces documents que des proches collaborateurs de Jacques Chirac, qui à l'époque est Premier ministre, sont au courant, et François Mitterrand également est proche des responsables d'aérospatiale.
Ouais. Alors justement, l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée n'a pas changé grand-chose dans cette histoire. Donc sous Giscard, c'était comme ça, sous Mitterrand, ça change pas.
Il y a une grande continuité. Ça a été dit également dans votre récit, hein, par Henny Van Vuren, qui se base sur des documents. Donc il y a les paroles et les actes. Alors, bien sûr, du côté de la droite, il y a un soutien un petit peu plus assumé, on va dire, à Pretoria. Du côté du Parti Socialiste, il y a quand même eu un changement, faut le noter, puisque à partir de 1981, l'ANC peut s'installer dans un bureau à Paris. Donc ça, c'est suite à l'élection de François Mitterrand, président socialiste. L'ANC qui est considéré, faut le rappeler aussi, comme un mouvement terroriste à l'époque. Donc c'est pas rien qu'il puisse s'installer dans un bureau. Donc il y a une condamnation, on va dire, morale du pouvoir socialiste, sauf qu'il y a quand même une grande ambiguïté, voire une forme de cynisme, parce que les liens d'affaires, eux, ils perdurent. On voit même d'ailleurs des proches du Parti Socialiste, je pense aux représentants des questions de l'Afrique australe, et donc qui s'occupent de l'Afrique du Sud, OPS, qui est aussi très proche de Dulcie September, qui quelques années plus tard va être condamné dans une affaire de trafic d'armes, l'Angola Gate, des ventes d'armes illégales de la France à l'Angola entre 93 et 98. Donc on voit quand même qu'on est dans une zone très grise.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Benoît Colomba, les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique du Sud ne se limitaient pas à des armes. Car en 1985, la centrale nucléaire de Keuberg est livrée. Et à ce sujet, vous avez rencontré Jacques Barret, un ancien militant CGT, ex-ingénieur à EDF. Que vous a-t-il dit des enjeux et des risques d'une telle coopération? Parce qu'on le sait, la frontière entre nucléaire, civil et militaire peut être ténue.
Elle est très ténue. Cet ancien ingénieur à EDF, lui, là-dessus, il avait cette phrase. Il disait, oui, cette collaboration nucléaire, elle existait, mais elle était plus discrète que secrète, au sens où lui, tous les documents qu'il a vu passer, ils n'étaient pas forcément tous estampillés ultra secret défense. Sauf que elle était quand même très secrète. C'est-à-dire que évidemment, il y avait une collaboration civile, mais cette collaboration était également militaire. Vous l'avez dit, la frontière est en fait relativement théorique, et on sait aujourd'hui que la France, avec d'autres pays, hein, Israël, l'Allemagne, les États-Unis, a aidé l'Afrique du Sud de l'apartheid à avoir sa bombe. Même si, officiellement, en 1993, le régime sud-africain a annoncé qu'il démantelait son complexe militaire, arsenal nucléaire. Bon, mais donc, ce soutien nucléaire, il existait. Et là, vraiment, on est dans le domaine ultra sensible. Et du 6 septembre, s'y intéresser. Et je pense notamment à une note, un des rares écrits qui existe toujours dans les archives. En juin 87, elle écrit justement au représentant de l'ANC qui s'occupe des questions d'armement et de prolifération. Elle écrit « Il y a trop de secrets autour de la collaboration militaire entre la France et l'Afrique du Sud ».
Alors, cet embargo, à force de coups de boutoir, il est de plus en plus fragile. Ça nous amène à l'un des éléments importants de votre enquête. Vous révélez qu'une semaine avant son assassinat, Dulcis September a rencontré deux ingénieurs français qui lui ont transmis des informations au sujet de la télédétection et du satellite Spot. De quoi s'agit-il ?
Ben, en fait, du 6 septembre, encore une fois, a rencontré des lanceurs d'alerte dans les offices d'armement. Et là, effectivement, il y a deux ingénieurs qu'elle rencontre et qui alertent sur ce projet SPOT. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, c'est un satellite qui a été envoyé par la fusée Ariane et qui permet, avec des stations au sol de télédétection, d'avoir vraiment des images très précises avec une haute définition de ce qui se passe au sol. Alors, officiellement, c'est pour des applications civiles, mais tout de suite, ces personnes-là voient le danger. L'application militaire, elle peut aussi être évidemment très efficace pour cibler en l'occurrence les opposants, l'ANC, puis dans d'autres pays, en Namibie, c'est la SWAPO par exemple, etc. Donc ils s'opposent à ça d'abord en interne, ils font fuiter l'information, ça fuite quand même dans la presse, et puis ils alertent du 6 septembre. Une semaine avant sa mort, me raconte-t-il, ils vont la rencontrer, ils lui détaillent vraiment tous les enjeux autour de ce projet.
Donc c'est la femme qui en savait trop.
Apparemment. Elle remuait beaucoup de choses en fait, et je pense que le moment en fait est très important, c'est-à-dire 88, le moment où ça se passe, je pense que ça met en danger du 6 septembre, parce qu'on est en période de cohabitation entre la gauche et la droite, Mitterrand président de la République, Jacques Chirac Premier ministre, on est en période aussi de quelque part de début de transition aussi en Afrique du Sud, parce qu'on a un régime policier raciste qui est vraiment engagé dans une dérive sanglante, mais qui est traversé aussi par certaines contradictions. Un an plus tard, en 89, c'est Frédéric de Klerk, qui est un ultra-conservateur, mais qui va devenir président et qui va amorcer la fin de l'apartheid. En 90, donc deux ans plus tard, c'est la libération de Mandela. Mais paradoxalement, cette situation met en danger du 6 septembre, qui devient gênante, en fait, parce qu'elle rue dans les brancards, elle alerte sur tous ces sujets-là. Et au sein de l'ANC, en fait, certains préparent l'avenir. Le vent de l'histoire commence à tourner, mais certains préparent l'avenir avec pas mal de cynisme aussi et de réel politique, en disant on va peut-être pas trop toucher à ces histoires d'armement et nucléaire.
En 1986, en France, la droite est de retour. C'est la première cohabitation avec Jacques Chirac à Matignon. Les relations contre nature avec le régime de l'apartheid se poursuivent, voire s'intensifient. À l'été 87, une délégation de 9 députés se rend en Afrique du Sud. Alors, parmi ces députés, un certain Jean-Pierre Stirbois, député FN, qui à son retour annonce « l'apartheid tend à disparaître ». C'est une archive de France Inter du 12 juillet 1987.
Il est certain que l'apartheid tend à disparaître. Nous avons constaté, qu'il s'agisse dans les hôtels, les restaurants, dans les rues, sur les plages, que la discrimination raciale tendait tout à fait à... n'existait plus d'ailleurs, puisqu'en effet, moi j'ai appuyé sur mon bouton de télévision le premier jour, et j'ai constaté que ce soit dans les stades, à l'occasion de matchs de rugby, de football, eh bien les noirs et les blancs jouaient ensemble, ou les uns contre les autres, dans des équipes, qu'ils avaient la possibilité d'assister aux matchs dans les grands stades, à tous les matchs qu'ils voulaient voir. Véritablement, il y a une volonté de changer la société sud-africaine de la part du gouvernement. Nous l'avons constaté.
Et alors, quelques semaines plus tard, à l'Assemblée nationale, le même Jean-Pierre Stirbois exprime le souhait que la France vende des avions militaires à l'Afrique du Sud pour sauver des emplois français. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Oui, elles sont intéressantes, ces déclarations. On a oublié tout ça. On revient sous la plume de Grégory Mardon, on revient sur toutes ces déclarations qu'on met en image. Ça montre la connexion assez forte qu'il y avait avec le régime de Pretoria à l'époque. Ça passe par, effectivement, des groupes d'amitié parlementaire. Le courrier austral parlementaire que vous évoquiez tout à l'heure, donc dirigé par un très proche de Charles Pasqua, que Dulcis September, surnommé The Bulldog, le Bulldog, parce quoi, c'est dire que si elle était chère à son cœur. Et donc voilà, il y a toute une série de structures, en fait, de lobbying, finalement, et de soutien au régime de l'apartheid. Donc on est vraiment dans cet univers-là.
Alors le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, s'est emparé de plusieurs sujets sensibles de notre histoire contemporaine, vous le savez. Et en 2021, lors de son voyage en Afrique du Sud, il avait interpellé sur l'histoire de Dulcis September. Oui, c'est bien, après.
Oui, il est interpellé par le président de la Fondation Mandela sur justement le dossier. Emmanuel Macron dit on va regarder, mais finalement il ne se passe pas grand-chose. Là aussi, on est quand même pas mal dans le double discours, parce que dans la réalité, on voit que le dossier est enterré, et surtout, on n'ouvre pas les archives.
En tout cas, nous, vous, surtout avec votre BD, puis nous, un peu quand même dans l'affaire sensible, peut-être a-t-on contribué à désensabler un peu les mémoires.
Sachant que du côté de l'Afrique du Sud, le dossier vient d'être ouvert.
Parfait. Merci infiniment, Benoît Colomba. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assassinat de Dulcis September, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Constance Henry.
Affaires Sensibles est un podcast France Inter.